Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir, il est 18h30 en temps universel. Bienvenue dans cette édition du 15 octobre 2019. Nathalie Barge à la présentation, voici les titres. Nouveau heurt en Guinée au deuxième jour de manifestation contre un éventuel troisième mandat d'Alpha Condé. Trois militants du collectif Tournant la page interdit d'entrer au Togo, dénonce Amnesty International. Élection générale au Mozambique où le président sortant Philippe Nyusi affronte Osufo Momade. Nouvelle réunion au Conseil de sécurité mercredi sur l'offensive turque en Syrie. 12 candidats à l'investiture démocrate tiennent ce soir leur quatrième débat télévisé aux États-Unis. Et juste après le journal, ce sera l'actualité économique et les sports. La mobilisation ne faiblit pas en Guinée après une journée de violence lundi ayant fait 4 morts selon les opposants et 2 selon le gouvernement. La capitale est encore paralysée au deuxième jour de manifestation contre un troisième mandat du président Alpha Condé. Le point avec notre correspondant à Conakry, Zakaria Camara.
Le président Alpha Condé proposait lundi soir dans un communiqué un cadre de dialogue et de concertation en vue d'une sortie de crise en Guinée. Pas de dialogue tant que les membres du FNDC, le Front National pour la Défense de la Constitution, interpellés samedi, restent en prison, réagissent au mardi, c'est le d'Alain Diallo, chef des files de l'opposition. Les membres du FNDC interpellés samedi seront jugés demain mercredi 16 octobre au tribunal de première instance de Dixine à Conakry. Ils sont inculpés pour des faits de manœuvre et actes tendant à troubler la sécurité publique et provoquer des troubles graves. Contrairement à la route, le prince restait déserte à cause des barricades et des pneus brûlés par des jeunes en colère. L'autoroute Fidel Castro a connu ce mardi quelques mouvements de véhicules. Des cours ont été possibles dans certaines écoles, mais plusieurs boutiques et stations-service n'ont pas ouvert. Zakaria Camara pour VO Afrique, Conakry.
Amnesty International a dénoncé l'interdiction faite par les autorités togolaises à 3 militants ressortissants de la CDAO d'entrer dans le pays. Les membres du collectif Tournant la page, Maïkoul Zodi, Karim Tanko et Alexandre Didier Amani, ont été interdits d'entrer au Togo pour un événement réunissant d'autres organisations de la société civile, selon l'ONG. Lors d'une cérémonie d'hommage à Thomas Sankara à Ouagadougou, des sympathisants de l'ex-président du Burkina Faso ont appelé à institutionnaliser la date du 15 octobre, jour anniversaire de son assassinat. Ils demandent un cérémonial avec l'implication de la garde nationale et des officiels, y compris le président. Selon Luc Damiba, secrétaire général du comité international mémorial Thomas Sankara, tué le 15 octobre 1987 lors du coup d'État qui porta au pouvoir son compagnon d'armes Blaise Compaoré, Thomas Sankara est devenu une icône en Afrique pour son intégrité et son engagement pour le développement. Les Mozambicains ont voté aujourd'hui lors d'élections générales pour élire leur président, gouverneur, provinciaux et député. Yacouba Ouédraogo nous en dit plus.
La présidentielle oppose le chef de l'État sortant, Philippe Nyusi, du Front de libération du Mozambique à Osufo Momade, du Parti de la Renaissance nationale du Mozambique. Le Mozambique a choisi d'aller de l'avant de façon pacifique, continuant ce processus de façon sereine, a lancé le président sortant après son vote. J'en appelle à mon frère Nyusi, le chef de l'armée, à respecter la volonté du peuple, a déclaré de son côté M. Momade. Le gouvernement du Frelimo et la Renamo, ancienne rébellion devenue principale parti politique, ont signé en août dernier un accord de paix. Cet accord prévoit que les 13 millions d'électeurs doivent élire pour la première fois les gouverneurs provinciaux jusque-là nommés par le pouvoir. La campagne a été tendue car une figure de la société civile a été abattue au volant de sa voiture par des policiers. Les premiers résultats significatifs sont attendus à partir de jeudi.
Les étudiants ont encore manifesté contre le pouvoir ce mardi à Alger, malgré un important dispositif policier. À l'occasion du 34e mardi de contestation, des milliers de personnes ont défilé sans incident de la place des Martyrs au pied de la Kachba jusqu'à la Grande Poste, lieu de rassemblement traditionnel du Irak, le mouvement qui secoue l'Algérie depuis le 22 février. Le cortège s'est dispersé dans le calme en début d'après-midi. Les 300 000 fonctionnaires du Zimbabwe ont annoncé qu'ils ne pouvaient plus se rendre à leur travail, leur salaire ayant perdu toute sa valeur du fait de l'inflation galopante, selon leur syndicat. Cette décision intervient alors que les médecins des hôpitaux publics sont en grève depuis 44 jours pour exiger une revalorisation de leur salaire, dont la valeur a dégringolé en un an. Le procès de Jacob Zuma pour corruption, qui devait débuter ce mardi, a été reporté après l'annonce de l'ancien président sud-africain de sa volonté de faire appel des poursuites le visant. Monsieur Zuma est accusé d'avoir touché des pots de vin du groupe de défense français Thales dans le cadre d'un contrat d'armement de 51 milliards de rand attribué donc en 1999.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les forces kurdes opposent une résistance acharnée dans la ville frontalière de Ras Al Ain, au 7e jour de l'offensive lancée par Ankara dans le nord-est de la Syrie. Cette situation a provoqué des déplacements massifs de population. Irénée Erman Ongbo nous en dit plus.
Le président turc Recep Tayyip Erdogan a affirmé que l'opération se poursuivrait jusqu'à ce que ses objectifs soient atteints, malgré les appels de nombreux pays, dont les États-Unis, pour la fin de l'offensive. Sur le terrain, les forces du régime de Bachar al-Assad se sont déployées au sud de Ras al-Ain après un accord avec les Kurdes. Les forces turques ont pu conquérir une bande de près de 120 km allant de la ville de Tal Abyad jusqu'à l'ouest de Ras al-Ain. L'envoyé spécial russe pour la Syrie, Alexandre Lavrentiev, a assuré que Moscou ne permettrait pas des affrontements entre les armées turques et syriennes. Le vice-président américain Mike Pence a annoncé hier qu'il se rendrait en Turquie. Washington a imposé des sanctions à trois ministres turcs. La Grande-Bretagne a suspendu ses exportations d'armes vers la Turquie. Paris craint que le groupe État islamique ne profite du chaos pour se reconstituer. Enfin, l'ONU met en garde la Turquie, qui pourrait être considérée comme responsable des exactions commises par des supplétifs syriens. Les membres européens du Conseil de sécurité ont demandé une nouvelle réunion à huis clos qui doit se tenir demain en fin de matinée.
Par ailleurs, 5 personnes ont été blessées hier soir dans des heurts en Allemagne entre des membres des communautés kurdes et turques en marge d'une manifestation contre l'offensive d'Ankara en Syrie. Les 12 candidats à l'investiture démocrate pour la présidentielle américaine seront à nouveau sur scène pour le 4e débat télévisé ce soir à Westerville dans l'Ohio. Le président Trump et l'affaire ukrainienne devraient occuper une place majeure dans les discussions. Le point avec Arzuma Compaoré.
Les 12 prétendants à l'investiture démocrate vont évoquer pendant 3 heures une variété de sujets allant de la santé au climat, l'économie et les armes. Mais c'est l'avenir politique du président Donald Trump qui retiendra l'attention. Joe Biden, qui a perdu des points dans les sondages et cité dans l'affaire ukrainienne, a déclaré qu'il est favorable à la destitution du président Trump. Il rejoint ainsi le reste du clan démocrate qui réclame l'impeachment, y compris sa rivale, le sénateur du Massachusetts, Elizabeth Warren. Elle gagne du terrain et selon Real Clear Politics, elle est en tête du peloton avec Biden. Ce débat signera aussi le retour de Bernie Sanders, sénateur du Vermont, qui se remet d'une crise cardiaque.
Hunter Biden, dont les activités professionnelles en Ukraine ont mis en porte-à-faux la campagne électorale de son père, l'ancien vice-président américain Joe Biden, s'est défendu de toute activité illégale, mais a reconnu une erreur politique. Le président Donald Trump accuse Hunter Biden de corruption en raison de ses activités au sein d'une entreprise ukrainienne Burisma, dont il fut membre du conseil d'administration entre 2014 et 2019. Le Conseil de sécurité de l'ONU a mis fin à 15 ans d'opération de paix en Haïti, auquel va succéder une mission politique. Lors d'une réunion du Conseil, l'ambassadrice américaine Kelly Craft a appelé toutes les parties à œuvrer pacifiquement pour répondre aux défis économiques et sociaux, rappelant que les États-Unis sont les premiers donateurs avec 5,2 milliards de dollars d'aide depuis le séisme de 2010. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. À présent, l'actualité économique dans la Minute Éco, présentée par Nani Talani.
La Côte d'Ivoire a lancé une plateforme de paiement en ligne des actes consulaires pour faciliter l'obtention de documents administratifs à distance pour les Ivoiriens de la diaspora. Ce système veut assurer la transparence et la traçabilité des fonds, renforcer l'efficacité et la sécurité des paiements. Cela aura, entre autres, pour avantage d'accroître les recettes des postes diplomatiques et consulaires. Le groupe algérien Sonatrach et l'espagnol Naturgy Energy Group ont convenu d'acheter la participation de 42,09% du fonds d'État d'Abu Dhabi dans le gazoduc entre l'Algérie et l'Espagne. Le gazoduc a une capacité de 8 milliards de mètres cubes par an. La Sonatrach sera le principal actionnaire avec 51% des parts. Naturgy détiendra 49%. La transaction sera finalisée d'ici mars 2020 et les dividendes annuels seront de plus de 130 millions d'euros. Pour terminer cette minute éco, au Zimbabwe, l'or va générer 4 milliards de dollars dans 4 ans, tandis que le platine rapportera 3 milliards de dollars supplémentaires grâce à la réalisation de nombreux projets, dont celui de Karo Resources, qui construit une mine de platine intégrée et une raffinerie. Par ailleurs, Vast Resources devrait signer cette semaine un accord sur la recherche de diamants. Engine veut reprendre l'exploitation minière, tandis qu'Alrosa prévoit de commencer à prospecter et à extraire des diamants.
À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
Albert Cartier succède à Faouzi Benzarti à la tête de l'Étoile du Sahel.
Oui, à la recherche d'un nouveau challenge, depuis son départ du club français d'Ajaccio en octobre 2018, Albert Cartier a été nommé entraîneur de l'Étoile du Sahel d'après Mosaïque FM. Le technicien français a débarqué à Sousse après avoir trouvé un accord avec la direction. Âgé de 58 ans, Albert Cartier a débuté sa carrière d'entraîneur en 1996. Il a dirigé le FC Metz, le FC Guéant, Sochaux et le Gazélec Ajaccio en France. En Belgique, il a eu des expériences à la Louvrière, au FC Bruxelles, à Mont et Eupen, entre autres. Il a aussi entraîné le Patrakikos en Grèce.
L'Ukraine s'est qualifiée pour l'Euro 2020.
L'Ukraine est devenue la cinquième nation à se qualifier pour l'Euro 2020 en dominant le Portugal 2-1 lors des éliminatoires. Le 700e but, toute compétition confondue, de Cristiano Ronaldo n'a pas empêché l'Ukraine du sélectionneur et gloire nationale Andriy Shevchenko, qui a validé son ticket pour l'Euro. En revanche, la France a été freinée par la Turquie 1-0. L'Angleterre, malgré sa balade en Bulgarie 6-0, devra encore attendre. Les Three Lions ont confirmé avec la manière leur place de leader devant la République tchèque, mais la victoire dans le même temps du Kosovo contre le Monténégro 2-0 a privé l'Angleterre d'une qualification.
Le président de la Fédération bulgare de football démissionne pour cause de racisme.
Borislav Mihailov, mis en cause par son gouvernement après des chants racistes lors du match Bulgarie-Angleterre, a présenté sa démission hier. Des supporters bulgares ont pris pour cible des joueurs noirs de l'Angleterre lors d'un match de qualification de l'Euro 2020, perdu 6-0 par la Bulgarie. Le premier ministre bulgare, Boyko Borisov, a réclamé la démission immédiate de Mihailov. Il est inadmissible que la Bulgarie, l'un des pays les plus tolérants du monde, soit associé à la xénophobie, a écrit le chef du gouvernement. Le stade Vassil Levski a déjà été frappé d'un huis clos partiel pour ce match en raison d'insultes racistes contre le Kosovo en juin.
LeBron James est fustigé par les Américains pour ses propos.
La superstar des Los Angeles Lakers a enflammé les réseaux sociaux ici aux États-Unis. Des internautes l'accusent de soutenir la Chine après sa critique d'un responsable des Houston Rockets pour un tweet polémique sur Hong Kong. LeBron James a estimé hier que le directeur général de la franchise texane, Daryl Morey, n'en savait pas assez et était mal informé.
lorsqu'il a publié un message de soutien aux manifestants hongkongais début octobre. James a un contrat à vie d'une valeur de plusieurs dizaines de millions de dollars avec l'équipementier Nike, pour lequel il effectue souvent des voyages promotionnels en Chine, où il est très populaire.
Merci beaucoup Yakuba pour cette page sportive.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez en effet Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. C'est Nathalie Barge avec vous. À présent, les dossiers du jour. En Guinée, de nouveaux heurts ont opposé des centaines de manifestants et les forces de l'ordre à Conakry ce mardi, au deuxième jour d'une mobilisation meurtrière contre un éventuel troisième mandat du président Alpha Condé. Des jeunes ont érigé des barricades, brûlé des pneus et lancé des pierres sur les policiers et gendarmes, à nouveau massivement déployés dans les quartiers périphériques de la capitale et fiefs de l'opposition. Les forces de l'ordre ont riposté par des tirs de lacrymogène. Eric Manirakiza a joint à Conakry le leader de l'opposition, Sélou Dalein Diallo.
Non, ma maison est encerclée par des camions militaires, au moins une dizaine. Je n'ai pas le droit de sortir de ma maison depuis hier matin. Mais les Guinéens sont sortis massivement pour exprimer leur opposition à la modification ou au changement de notre constitution pour pouvoir octroyer une présidence à vie à Michel Alpha Condé. Il faut s'en réjouir. Les Guinéens se sont exprimés et j'espère que Alpha Condé va comprendre le message délivré hier par le peuple de Guinée. Il y a eu, malheureusement, de l'autre côté, l'usage des armes à feu par les forces de défense et de sécurité. Six compatriotes ont perdu la vie. Ils ont été abattus à bout portant par les forces de l'ordre. Et les manifestations continuent, malheureusement. Et le carnage continue dans la banlieue, notamment dans la commune de Ratona, où les gens continuent de tirer à bout portant. Ils rentrent dans les quartiers, renversent les marmites de riz et sont en train de bouillir pour la famille et insultent les femmes et les violentes tout en proférant des injures de nature ethnique contre les citoyens.
Et quand est-ce que vous comptez arrêter les manifestations? Qu'est-ce que vous exigez?
À la satisfaction de nos revendications.
Oui, mais vous revendiquez, le président Alpha Condé n'a pas encore dit qu'il va briguer un troisième mandat.
Si. Il a déjà dit même à New York, il a demandé à Pétain de se préparer pour le référendum, pour changer de constitution. Il a instruit le ministre des Affaires étrangères de demander à toutes les ambassades de convaincre les institutions et les gouvernements auprès desquels ils sont accrédités de la nécessité pour la Guinée de changer de constitution. Des éléments de langage ont été élaborés et remis aux ambassadeurs qui ont déjà commencé leur démarche. Et tous les jours, il y a des manifestations ici pour essayer de justifier justement le troisième ou le quatrième mandat pour Michel Alpha Condé en disant qu'il faut qu'il finisse ce chantier. Les promoteurs du troisième mandat ont organisé toutes sortes de manifestations publiques avec la bénédiction des préfets et la protection des forces de l'ordre. Alors que les adversaires du troisième mandat, lorsqu'ils veulent manifester, on rappelle que les manifestations sont interdites.
Mais le projet de constitution qui va être soumis à référendum, est-ce qu'il est déjà connu?
Non, il n'est pas encore diffusé, malheureusement. Même le Premier ministre, en affirmant qu'il est à 100% pour la Constitution, dit que je n'ai pas encore vu un mot. Mais ce qui est évident aujourd'hui, M. Alpha Condé tient. On souhaite que, naturellement, qu'il renonce de manière irrévocable à ce projet, qu'on puisse faire face aux problèmes auxquels le pays est actuellement confronté. Il y a la pauvreté qui ne fait que s'aggraver, les infrastructures sont dans un état déplorable. Il y a tellement d'enjeux et les élections législatives, les conditions d'inscription transparentes ne sont pas terminées. Et sans compter que les élections locales sont loin d'être terminées. Il a suspendu la mise en place des conseils de quartier et des conseils régionaux pour engager l'organisation d'une mascarade électorale au titre des élections législatives. Et c'est contre tout ça que nous manifestons.
C'était l'opposant guinéen Sélou Dalein Diallo. Il était joint à Conakry.
Retrouvez les programmes de VOA Afrique en Guinée sur Radio Milo FM 99.5 à Cancan et à Siguiri, Bolivar FM 99.4 à Mamou, Sabari FM 97.3 à Conakry,
Sabou FM 96.6 à Kindia, Soleil FM 93.5 à Conakry.
La grève des enseignants du Nord Kivu dans l'est de la République démocratique du Congo se poursuit depuis 2 semaines. Hier, 1 millier d'enseignants ont marché dans les rues de Goma pour revendiquer le paiement des arriérés de salaire et de meilleures conditions de travail. Charlie Kazereka, correspondant de VOA Afrique, a tendu son micro aux manifestants dans la capitale du Nord Kivu.
La marche est partie de l'Institut de Goma jusqu'au bureau du gouverneur où ils ont déposé un mémorandum. Innocent Baha, la Chamavou et les porte-parole des grévistes.
Nous réclamons la suppression des 3 zones salariales. Nous réclamons aussi la paye des enseignants. Ça, donc toutes les écoles publiques, le paiement des personnels d'appoint dans des écoles. Ça signifie les sentinelles, les comptables. Mais aussi, nous réclamons un salaire décent selon notre constitution.
Les nouvelles unités sont des enseignants nouvellement recrutés dans des écoles et qui n'ont pas un statut clair. Ces enseignants disent ne pas comprendre les différences qu'il y a entre les salaires de ceux vivant à Kinshasa et ceux vivant en province. Depuis 2 semaines, les cours sont suspendus dans plus de 400 écoles à Goma. Les enseignants décident de poursuivre leur mouvement de grève jusqu'à ce que leurs demandes soient satisfaites.
Nous avons commencé notre grève, c'était depuis le 2 octobre. Aujourd'hui, nous sommes le 14 octobre. Le fait de déposer ce mémorandum ici ne signifie pas que demain nous allons reprendre les chemins de l'école.
Nous allons rester toujours en grève. La grève sera solidifiée jusqu'à ce que le dernier NI et le dernier NP de la République sera payé selon la gratuité. Et les parents, on ne va plus revenir à la prime si nous ne pouvons pas cette prime-là.
De leur côté, les parents s'inquiètent et appellent à une solution rapide entre les deux parties. Harry Lombelli est père de 6 enfants.
C'est pas bien. En tout cas, moi, je dis encore une fois que les enseignants, qu'ils soient patients, qu'ils attendent ce que le président va donner. Ça fait des années, on payait pour les enfants les frais scolaires. Par exemple, moi-même, je paye 1 400 $ par mois, par an, pour les enfants.
Les enseignants grévistes ont rejeté l'appel de l'intersyndicale, les invitant à rejoindre les classes le vendredi dernier. Les responsables des syndicats des écoles catholiques préconisaient un dialogue avec le gouvernement tout en dispensant les cours. Une attitude qui n'a pas plu aux grévistes et qui disent continuer leur mouvement de grève jusqu'à la solution. Charles Kasereka pour VOA Afrique, Goma.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Goma, c'est sur 96.2 FM en République démocratique du Congo.
Le service des passeports au Togo est débordé depuis le début du programme américain de la loterie Visa pour 2021. Et pour cause, parmi les conditions de participation, figure la possession par les candidats d'un passeport en cours de validité, un document dont ne dispose qu'une infime partie de la population togolaise. Ainsi, des milliers de personnes font le pied de grue quotidiennement devant ce service pour se faire établir un passeport. Notre correspondante à Lomé, Kayi Lawson, s'y est rendue dès l'aube.
Pour avoir la chance de déposer sa demande en vue de se faire établir un passeport ces jours-ci à Lomé, il faut se lever très tôt. À cause de la loterie Visa, le service des passeports se retrouve avec plus de 2000 requérants devant ses locaux. Les premiers venus sont les premiers servis.
Je suis venu pour faire mon passeport et j'étais ici depuis 1h du matin. Mais il fallait voir.
Enfin, je suis venu depuis 3h du matin pour faire mon passeport. Et déjà, 1h30, j'ai quitté en Europe pour ici. Et voilà, je quitte à 13h.
Nous sommes venus pour faire le passeport. Nous étions là hier à partir de 23h. Nous avons pu avoir accès à la queue à partir de 4h du matin. Voilà la situation, je suis sûr que je peux faire mon passeport aujourd'hui.
Déjà à 5h du matin, les premiers requérants sortent des locaux du service des passeports le sourire aux lèvres. Il leur a fallu beaucoup de patience et des heures dans d'interminables queues. Isaac Nounifou a réussi à faire sa demande de passeport. C'est tout joyeux qu'il s'exprime au micro de VOA Afrique.
Je suis venu pour faire mon passeport. Par la grâce de Dieu, j'ai pu faire le dépôt. Ça n'a pas été facile, mais c'est abouti quand même.
Cette soudaine affluence a bousculé les habitudes au niveau du service des passeports. Les journées de travail sont désormais de 4h du matin à 20h. Entre 1000 et 1300 dossiers, ils sont enregistrés tous les jours de dépôt. 90% de ceux qui se bousculent devant les locaux du service des passeports font la requête pour pouvoir jouer à la loterie Visa. Pour Doris, 25 ans, les conditions de vie au Togo l'ont contrainte à se tourner vers le pays de l'oncle Sam.
J'ai voulu faire mon passeport pour jouer à la loterie Visa. Vu les conditions dans lesquelles on vit au pays, vraiment, on n'arrive plus à supporter. Donc on veut quitter le pays pour aller à l'étranger. Sinon, au pays, on ne peut rien réaliser avec tous ces salaires minables qu'on nous donne. J'ai ma licence en gestion commerciale. J'ai été employée dans une agence de commerce. Je gagne 35 000 francs.
L'affluence constatée au niveau du service des passeports contraste avec le désert observé du côté des kiosques et cyber qui offrent leurs services aux postulants de la loterie Visa. Des structures qui, dans les années précédentes, étaient submergées. Yaobi Ege offre ses services à ceux qui veulent jouer à la loterie Visa.
Cette année, il n'y a pas d'affluence comme les éditions précédentes. Tout cela est dû à l'introduction du passeport pour pouvoir jouer à la loterie Visa.
Ceux qui ne pourront pas être en possession de leur document de voyage avant le 5 novembre prochain pourraient encore tenter leur chance à la loterie Visa l'année prochaine. Kailson, Lomé, VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique, 24 heures sur 24, à Lomé, sur 102.3 FM.
Au Burkina Faso, 32 ans après son assassinat, le père de la révolution reste toujours d'actualité. Thomas Sankara a été assassiné le 15 octobre 1987. Les proches du capitaine révolutionnaire ont toujours en mémoire cette journée tragique. Au plan judiciaire, le dossier connaît des avancées significatives. Cette année, la commémoration de cet anniversaire s'est faite dans la sobriété à Ouagadougou. Un reportage de notre correspondant dans la capitale burkinabé, Lamine Traoré.
À Ouagadougou, c'est une date qui ne passe pas inaperçue chaque année depuis 1987. Le 15 octobre de cette année-là, la révolution d'août 83 venait de s'arrêter. Son leader, Thomas Sankara, a été assassiné, ainsi que 12 autres de ses compagnons en pleine réunion au Conseil de l'Entente, au cœur de Ouagadougou. Yamba Malik Sabadougou, il fait partie de ces prisonniers qui ont participé à l'inhumation de Thomas Sankara le 15 octobre 87 dans la nuit.
C'était une nuit noire, comme on aime à le dire. C'était pas du tout beau à voir. Effectivement, j'ai malheureusement participé cette nuit-là, l'enlèvement des corps, à l'enterrement de Thomas Sankara et de ses compagnons. Donc à chaque fois, chaque 15 octobre, je revis ça comme étant hier. J'ai trouvé ça très méchant.
Blaise Compaoré au pouvoir pendant 27 ans, le dossier est resté sans suite. Mais après l'insurrection populaire de 2014, qui a vu la chute du régime Compaoré, le dossier a considérablement bougé ces dernières années. Blaise Compaoré, inculpé dans ce dossier, apparaît comme un suspect sérieux.
Le dossier évolue très positivement avec de nouvelles inculpations, mais aussi avec beaucoup d'auditions de témoins.
Maître Benewende Sankara fait partie du collectif d'avocats dans le dossier Thomas Sankara.
La France avait promis des documents déclassifiés qui sont arrivés en partie. Nous attendons un dernier lot. Comme premier obstacle que nous avons dans ce dossier, c'est l'exécution du mandat d'Amené qui a été émis contre Blaise Compaoré et celui qui a été émis contre Yassine Kapando qui aujourd'hui se sont réfugiés en Côte d'Ivoire alors même qu'ils font l'objet d'une procédure d'extradition.
Ce 32e anniversaire a été commémoré dans la sobriété à Ouagadougou. Pas de meeting ni de marche pour réclamer la lumière. Des proches du capitaine Thomas Sankara ont fait dans la matinée le dépôt de gerbes devant le bâtiment Burkina au Conseil de l'Entente, là où le capitaine a été assassiné. Un projet de construction d'un mémorial est en cours au Conseil de l'Entente à Ouagadougou. Une statue de Thomas Sankara est en cours de finition et devrait être implantée dans les mois à venir au lieu où le mémorial sera construit. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
C'est la fin de cette édition à la technique. C'était Cheikh Thierrot et Saïd Taïeb à la présentation. Nathalie Barge, on se retrouve dans un instant pour un rappel des grands titres. A tout de suite sur VOA Afrique.
Écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM, Kledou FM Bamako, Raga FM Goma, 96.5 Fraternité FM Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur ondes courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.